Au cours des deux dernières semaines, on a eu des moments heureux et des moments plus tristes dans le monde du sport. On risque d'avoir des vaccins qui permettront de tenir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Mike Tyson et Roy Jones se sont livrés un match mule dans un combat de boxe qui rappelle bien les souvenirs. Romain Grosjean s'en tire avec des brûlures à la suite d'un grave accident en Formule 1. Et pendant que les Broncos de Denver se cherchent un quart arrière, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Camille Chai, Yvan Deslauriers, José Malo, Arcadio Marcuzzi, Marie-Claude Molnar et Lynn Tremblay. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et bienvenue à l'émission du 1er décembre. Diego Maradona est décédé le jeudi dernier et j'en parle de son impact avec Arcadio Marcuzzi, qui est relationniste pour l'Impact de Montréal et ancien journaliste de sport. Je l'ai rencontré plus tôt.
Alors, bonjour Arcadio, merci de se joindre à moi.
Bonjour Dominique, merci à toi pour l'invitation.
Donc, ça fait maintenant quelques jours que Diego Maradona est décédé. Qu'est-ce qu'il représentait pour, ou qu'est-ce qu'il représente pour les Argentins et pour toi en particulier?
Ben, Diego Maradona, pour les Argentins, ça représente beaucoup de choses, mais c'est avant tout une grande icône populaire, une figure presque religieuse là-bas. C'est évidemment le dernier à nous avoir donné la joie d'une Coupe du Monde. C'est une joie incroyable que, bon, commence à être très lointaine, mais qui, avec les années, évidemment, on idéalise beaucoup. Il représente quelqu'un qui a toujours tout donné pour le maillot argentin, pour le drapeau argentin. C'est une figure, évidemment, qui est issue des classes populaires, donc il résonne beaucoup chez la classe ouvrière, chez les gens qui ont plus de difficultés dans la vie au niveau social. Donc, c'est sûr que c'est une figure qui est très forte pour plusieurs raisons et à plusieurs niveaux.
Et pour toi en particulier?
Ben pour moi, ce sont surtout mes premiers souvenirs de foot. En 86, j'avais 5 ans et demi. J'habitais toujours en Argentine. J'étais pas encore immigré. J'avais pas encore immigré au Québec. Et ça représente mes premiers souvenirs forts de ce que c'est le soccer, tu sais, la force rassembleuse de ce sport-là. Je me souviens assez bien des réunions qu'on faisait en famille ou entre amis pour voir les matchs. Des célébrations une fois que cette Coupe du Monde-là elle a été acquise. Et c'est très fort, c'est très, très fort. C'est d'ailleurs parmi les premiers souvenirs que j'ai très clairs dans ma vie. Je ne pense pas que j'aurais de souvenirs aussi lointains s'il n'y avait pas eu justement ce moment très fort qu'était la Coupe du Monde 86. Alors oui, Diego, pour moi, représente tout ce que je t'ai dit avant, mais au niveau personnel aussi, ça représente surtout mes premiers souvenirs de foot qui sont assez glorieux, quoi.
Maintenant que tu es avec l'Impact, tu es journaliste sportif qui a couvert beaucoup de foot, est-ce que ça a forgé ton le reste de ta vie, tu penses?
C'est sûr. Je dirais pas que ça l'a forgé, mais ça l'a donné une certaine direction. Ça m'a donné assurément un amour du soccer que j'aurais peut-être eu ailleurs ou différemment, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Et c'est sûr que ça l'a un peu conditionné, si on veut, mes décisions et mon rapport par rapport au soccer en général. Et comme tu le dis si bien, j'en ai fait carrière. Heureusement, je m'en sens fort privilégié, tout d'abord comme journaliste, donc en ayant un accès privilégié justement au sport et à ses acteurs. Et depuis quelques mois, ben, un petit peu plus de l'autre côté de la clôture, à l'interne, si on veut, avec l'Impact de Montréal. Donc, oui, tout à fait. C'est des choses comme ça qui marquent un peu, disons, le reste d'une vie, c'est certain.
Et si je retourne en 1986, Maradona a porté l'Argentine sur ses épaules, encore des finales marquées. Tu avais dit dans une autre entrevue qu'il avait marqué probablement le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde.
Ouais.
notre auditoire et surtout des personnes qui sont non-voyants. Tu
Ouais.
pourrais-tu nous décrire un peu ce but-là?
Ah, tout à fait. Écoute, c'est Maradona reçoit une passe de son côté du terrain, là, tout près de la ligne médiane. Il est dos au but à ce moment-là sur le flanc droit du terrain. Il se retourne d'un superbe pivot. En se retournant, il déjoue un défenseur, poursuit sa course folle sur le couloir droit. En déjouant des adversaires. Je pense qu'il a laissé sur son sillon 8 joueurs anglais au total, dont le gardien de but, Peter Shilton. Donc, il s'est rendu dans la surface. Dès qu'il entre dans la surface, le gardien essaie de... Il est toujours, hein, évidemment, sur le côté droit du terrain. Le gardien essaie de sortir pour fermer les angles, pour tenter de le harponner, d'harponner le ballon. Diego Maradona lui fait une feinte vers la gauche. Vers la droite, pardon, il le déjoue, il garde toujours la possession du ballon, ce qui était tout à fait improbable. Et pour vous donner une idée, les terrains à Mexico, à l'Estadio Azteca, étaient en très mauvais état aussi. C'était très raboteux. Et c'est là que la technique, hein, et le passé de Diego Maradona dans les petits terrains de son bled à Buenos Aires ont payé à ce moment-là parce qu'il a maintenu le contrôle alors que c'était très difficile. Couche le gardien de but. Et arrive pour tirer. Lorsqu'il arrive pour tirer dans une cage qui est à peu près béante, il y a un défenseur qui vient le tacler par en arrière, lui donne un gros coup de pied à la cheville, mais trop peu, trop tard, Maradona glisse le ballon dans ce but. Il tombe tout en tombant, ce qui rend le tout beaucoup plus dramatique. Et voilà, c'était l'extase à l'Estadio Azteca et un peu partout dans le monde. Et encore aujourd'hui, ben, on l'appelle le but du siècle.
Et les animateurs espagnols, qu'est-ce qu'ils crient après ce genre de but-là?
Ben, il y a un commentaire qui est resté, disons, gravé là, dans l'imaginaire collectif, c'est celui de l'Argentin Victor Hugo Morales, qui était le descripteur des matchs à la télé nationale en Argentine à ce moment-là. Et c'était un commentaire empreint d'émotion. À la fin, il pleurait. Et écoute, il a d'ailleurs mentionné, il lui a dit... De laisser autant de. Comment t'as fait pour laisser autant d'anglais dans ton sillon? Il a appelé le cerf-volant cosmique. De quelle planète es-tu venu? Puis, bon, il a décrit le but, puis il a dit. Et Diego Maradona célèbre ce but dans un point fermé dans lequel il porte toute l'Argentine pour ce Argentine 2, Angleterre 0, il le dit avec les larmes aux yeux. Là, on entend l'émotion dans sa voix. C'était magnifique. Je vous suggère d'ailleurs, si vous voulez le googler, c'est le commentaire de Victor Hugo Morales, sur le but de Maradona. C'est un peu partout sur YouTube. Même si tu ne comprends pas l'espagnol, tu vas comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut dire juste de par l'émotion et le ton de sa voix.
Je l'ai écouté cette semaine encore une fois, je l'ai vu plusieurs fois, puis encore des frissons,
Ah ouais.
c'est vraiment quelque chose.
Ils sont garantis.
Et donc, Maradona a quand même eu une fin de carrière pas très joyeuse. Il a combattu plusieurs démons, aussi il a aussi connu une carrière d'entraîneur. Est-ce que tout ça a terni un petit peu son image d'après toi?
Oui, c'est sûr que ça ternit son image auprès d'une partie de la population qui le condamne un peu pour ça. Je pense que la plupart des gens comprennent aussi que c'est un homme qui vient d'un milieu extrêmement difficile, qui est passé de la misère à la gloire la plus absolue en l'espace en très peu de temps, à un très jeune âge. Donc, et malheureusement pour lui, a été très mal entouré très jeune. Donc, et à une époque aussi où malheureusement les athlètes n'avaient pas l'encadrement qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Il s'est retrouvé en Italie à fréquenter des gens de la pègre au début de la début vingtaine, alors que bon, il était peut-être pas assez outillé pour pouvoir dealer avec tout ça. Est-ce que ça excuse tout? Non, pas du tout, mais je pense que ça aide à comprendre le personnage et le pourquoi de certaines choses, de certains choix qu'il a fait, certains choix malheureux qu'il a fait dans sa vie. Mais il a toujours tenté de s'en sortir. Lui, la lumière, toujours pour lui, était ses 2 filles, Dalma et Janina. Je pense que c'est elles qui ont fait en sorte que Diego Maradona n'est pas parti beaucoup plus tôt. Il a toujours voulu s'en sortir pour ça. Il a toujours aussi reconnu que c'était un problème. Ça n'a pas été quelqu'un qui a vécu dans le déni de ses addictions. Ça a été quelqu'un qui a tenté de s'en sortir à plusieurs reprises, qui a réussi, mais qui a toujours malheureusement gardé ça un peu en filigrane ou qui est passé de la drogue à l'alcool, de l'alcool aux médicaments. Bref, ça n'a pas été facile. Alors oui, ça a peut-être terni son image, mais je pense que, comme l'a dit Eduardo Galeano, le grand écrivain uruguayen qui a écrit beaucoup de livres sur l'Amérique latine, mais qui est un grand amateur de foot, qui l'a nommé le plus humain des dieux. Justement pour ça, parce que Maradona, oui, c'est un dieu, évidemment, on l'a dit, on l'image beaucoup là-dessus, mais c'est un dieu qui est extrêmement accessible et humain et qui nous dit beaucoup sur nous-mêmes en tant que, voilà, en tant qu'homme, en tant qu'être humain.
Merci beaucoup, Arcadio. Je te remercie énormément. Je sais que tu es très occupé aujourd'hui, mais ça a été un bon récit pour les gens qui ne connaissaient pas beaucoup Diego. Je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
C'est moi qui te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir, Dominique. Au plaisir.
Merci. Au revoir. On peut gagner, on peut plus que participer. Nous, on peut gagner. À soir, on pense sur la patinoire. Faut gagner. Si on dépense pour la victoire, on va gagner. On va gagner. Alors, je suis en compagnie de Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan, ça va bien?
Bonjour Dominique. Oui, en pleine forme. Et toi?
Très bien, merci. Si je regarde le sujet que tu m'as proposé cette semaine, je pense que tu t'ennuies de hockey. Tu t'es préparé en achetant certaines revues
Oui, que j'avais.
de Pouleux.
Oui.
Mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va y avoir du hockey, par exemple.
En fait, on ne sait officiellement pas ni quand ni comment ça va commencer la saison 2020-2021, qui va peut-être s'appeler juste 2021, en fait.
On ne sait pas.
La dernière information transmise par Gary Bettman lors des dernières séries de la Coupe Stanley prévoyait une reprise des activités autour du 1er janvier. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et rien d'officiel n'a été annoncé. Et je pense pas que ça prend 3 semaines pour lancer une saison. Ça doit en prendre un peu plus.
Même les camps d'entraînement n'ont pas commencé. Puis le
Effectivement.
basketball, lui, la NBA, là, vient tout juste de commencer, là.
Alors, dans l'article, les paris sont ouverts du journaliste Sébastien Lajoie dans la tribune du 21 novembre. On apprend les dessous de la rédaction du numéro spécial du Guide du Pooler 2020-2021 de Hockey, le magazine. Fait que là, on commence à s'approcher un petit peu. On y apprend que c'est la demande des lecteurs pour ce numéro qui devenait de jour en jour plus importante. Normalement, le travail commence le 1er juillet pour une publication en août en fonction des camps d'entraînement en septembre. Cette fois-ci, les démarches ont commencé le 9 octobre pour une parution le 2 novembre. Pour la chronique, j'ai aussi acheté le magazine Pool Pro, ayant une liste d'experts connus, Michel Bergeron, Jean-Charles Lajoie, Félix Séguin. Alors, ce sont deux magazines aux analyses vraiment très impressionnantes.
Quand et si la saison commence, tu vas être prêt et tu t'es basé sur quelle analyse, comment leur analyse fonctionne?
En fait, j'ai surtout utilisé Hockey le magazine parce que c'est l'objet de l'article qui a tout démarré ma réflexion. Il y avait cette année, pour Hockey le magazine, un comité de sélection de 4 personnes. Serge Turcotte de Hockey le magazine est président du comité de sélection. Guillaume Lefrançois de La Presse. Nicolas Ducharme de NHL.com. Et Sébastien Lajoie de La Tribune. Le comité s'est divisé en deux duos et chaque duo devait scruter 15 équipes ou 16 équipes, selon le cas. Donc, tout le côté ouest puis tout le côté
C'est ça.
est, par exemple. Chaque attaquant examiné doit produire 30 points et plus, les défenseurs plus de 20 points et on regarde aussi tous les gardiens.
Pour la raison, le 30 et 20, c'est juste parce que s'ils n'ont pas produit ça vaut pas la peine de les repêcher, c'est à peu près ça.
Ben là, on parle de pool, hein, fait qu'on essaie de choisir des joueurs qui vont rapporter quelque chose. Et le plus dur dans l'analyse, c'est de pouvoir choisir les joueurs d'un certain âge qui commencent à décliner ou les recrues qui vont avoir des grosses productions. Ça, c'est le gros travail à faire. Ensuite, les duos d'analystes soumettent leurs conclusions respectives selon les équipes qu'ils avaient à évaluer. Cette période de temps est connue sous le vocable de l'obstination.
Ils sont bien doués pour faire de l'obstination, les chroniqueurs d'hockey.
Je l'imaginais facilement. Et ce travail couvre l'analyse des joueurs en plus, Il y a un comité d'experts qui produit des prévisions sur le classement des équipes.
OK. Tu as parlé un petit peu, il y a quelques secondes, des critères par rapport à des grosses recrues ou des vétérans qui performent.
Oui.
Mais peux-tu donner en première ronde ou en deuxième ronde comment ça fonctionne, les joueurs? Comme par exemple,
oui. Je vais vous parler de deux critères de sélection qui m'ont frappé particulièrement. D'abord, certains font une analyse du temps de glace, du temps de jeu en avantage numérique et la tendance des joueurs à se blesser ou non. Les pooleurs doivent cibler les joueurs les plus résistants qui vont jouer longtemps. Les pools se gagnent souvent par les gars qui ont 45 à 50 points dans leur saison. Parce qu'en première ronde, tu ne te trompes jamais vraiment pour les très, très bons joueurs. C'est après ça que ça devient différent.
Il n'y a pas de surprise avec Sidney Crosby ou Alexander Ovechkin.
Par exemple. Sauf que pour moi, ça serait un danger de prendre Steven Stamkos, par exemple, qui est un excellent joueur, mais dans les dernières saisons, il a été très souvent blessé et blessé pour des longues périodes. Les joueurs dont la production est prévue pour avoir entre 45 et 50 points, je donne des exemples, Eric Staal, qui est maintenant à Buffalo, Matt Duchene à Nashville, Tyler Toffoli, nouvellement à Montréal, et Jeff Petrie, aussi à Montréal, un défenseur. L'autre critère, c'est l'entourage et l'entraîneur du joueur. Par exemple, la production offensive globale des Rangers de New York a toujours été répartie sur plusieurs joueurs, que ce soit sous Alain Vigneault ou John Tortorella. Quand on analyse les joueurs qui sont dirigés par ces gars-là, c'est difficile de donner 95 points, par exemple, à Claude Giroux, même s'il l'a déjà fait dans le passé, avant l'arrivée de Vigneault. Parce que Vigneault, lui, la façon dont il utilise ses joueurs, il s'assure qu'il y a plusieurs joueurs qui vont compter des points.
C'est intéressant, intéressant. Puis, le premier choix repêchage, Alexis Lafrenière, on pense-tu qu'il pourra avoir une bonne saison?
Là-dessus, j'ai consulté ces deux magazines francophones et là-dessus, ça fait l'unanimité. Il va gagner le trophée Calder. Je serais curieux de voir du côté anglophone s'ils pensent la même affaire. Dans Hockey, le magazine, on parle d'une récolte de 55 points pour une saison de 82 matchs, ce qui risque de ne pas arriver. Et dans le pool des pros, c'est 61 points. Donc, on roule à peu près autour de la cinquantaine pour une saison normale de 82 matchs.
Si on a l'intention de faire un pool en série, on a fait des analyses d'équipe. Qui pourrait tendance à aller loin?
Ça fait à peu près l'unanimité dans les deux revues. Puis là, on parle de gens, là, de Michel Bergeron, Denis Cazavant, Éric Fichaud, Jean-Charles Lavoie. Là, c'est quand même du monde qui connaissent ça. Du côté du Hockey, le magazine, c'est les analystes du côté de RDS qui s'ajoutent à ça. Donc, on prévoit en général une finale entre Colorado et Tampa Bay. Et ça devrait être Colorado qui va soulever la Coupe Stanley. Je souligne, par contre, la prédiction de Denis Cazavant qui dit que ça va être une finale Tampa Bay-Montréal avec... pas Tampa Bay, Colorado-Montréal, et Colorado va gagner la Coupe Stanley.
Il est très optimiste, lui.
Ben non, je l'aime, celle-là.
Correct, ça. Et... des joueurs du Canadien, on pourrait repêcher qui si on a un petit parti pris pour le Canadien?
Pour le Canadien, les choses qui sont fascinantes à regarder, par exemple, Carey Price va avoir une saison particulièrement importante, surtout avec l'ajout qu'il y a eu pour l'aider. On prévoit, il y a plusieurs personnes dans les deux magazines qui prévoient qu'il pourrait gagner le trophée Vézina, qui est accordé au meilleur gardien de but. Du côté des marqueurs, ça serait dans l'ordre... Tatar va rester le meilleur pointeur, suivi de Jonathan Drouin et de Nick Suzuki. Et je finis avec deux petites questions. Piquet Subban ou Shea Weber?
Ah, je ne sais pas. Je ne pense pas sûr que je choisirais quelqu'un.
OK. Piquet Subban, on prévoit 33 ou 28 points selon le magazine. Shea Weber, 42 ou 40 points. Alors, okay. Moi, mon lit est fait. Et finalement, Mikhaïl Sergachev ou Jonathan Drouin?
Jonathan Drouin.
Alors, on prédit de 59 ou 53 points à Drouin, 45 ou 43 points pour Sergachev. Jusqu'à présent, la transaction tourne du côté de Sergachev, mais on dit beaucoup que c'est l'année de vérité pour Drouin.
Merci beaucoup. Puis je pense qu'on va suggérer que Canalam fasse un pool de hockey, puis nous deux, on va gagner.
Ah oui, ce serait une excellente idée.
Merci beaucoup. Comme tous les autres organismes provinciaux, les activités de l'Association des sports pour paralytiques cérébraux sont en pause le temps de la pandémie. J'ai invité la directrice générale José Malo pour nous parler de ce qui se passe chez eux. Bonjour José, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va très bien, ça va bien.
Alors, comment ça se déroule à la QSPC par les temps qui courent?
Bien, en fait, nous, on pourrait dire que ça se déroule dans une grande prudence. C'est pas mal le mot, la prudence, la sagesse, la résilience, les mots qu'on entend un peu partout. La clientèle qu'on dessert, c'est principalement des athlètes de boccia, donc des gens lourdement handicapés, qui, depuis le début, on est assez convaincus qu'ils sont des personnes vulnérables, à risque, donc on prend pas de chance, ces gens-là. Et c'est pas que nous, là, les familles, les athlètes eux-mêmes, tout le monde prennent pas de chance. Les gens sont vraiment... dans leur maison depuis 9 mois. C'est vraiment impressionnant. En même temps, on se dit, bon, comment on fait? Alors,
alors, qu'est-ce que vous faites?
Ben, en fait, nous, dès le départ, on s'est pas lancé dans un plan de relance sur le terrain. On s'est vraiment dit, ça va être long. On avait quand même de l'information médicale, donc on s'est dit, ça va être long. On a travaillé beaucoup, surtout l'équipe du Québec, en distanciation avec des Zooms d'équipe. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans le sport, en plus du sport, puis de vouloir être meilleur, puis la compétition. Il y a tout le plaisir de côtoyer nos collègues. Là, vous le savez, vous en avez fait du sport. T'sais, oui, on veut gagner quand on est sur le terrain, mais si, il y a une grande partie sociale aussi, peu importe le niveau de jeu. Hein. Oui. On parle des jeunes D'accord. qui débutent ou des athlètes de haut niveau. Donc, on a ajouté des quiz parce que là, on se disait, bien, on arrive dans un camp d'entraînement virtuel avec les entraîneurs, les athlètes, puis on fait que parler sérieusement de notre discipline. Donc, on a ajouté des quiz entre chaque camp aux 2 semaines. Et ça a duré jusqu'à l'été, à l'automne, fin d'été, automne, une petite pause, puis on a repris, mais on reprend le mode du bon vieux téléphone. Alors, les entraîneurs travaillent directement avec chaque athlète maintenant, puis ils se parlent un à un. C'est vraiment l'approche automnale. On a fait une rencontre en octobre autour de l'Halloween. On en fera une pour autour du temps des fêtes. Mais évidemment, on ne pouvait pas tenir les gens comme ça à distance. Puis pour ceux qui pratiquent pas au niveau de compétition de l'équipe du Québec, on a travaillé avec notre association canadienne et on a créé une activité qui s'appelait « Conversation avec ».
Okay.
Et il y a eu différents sujets. Bon, ça a duré jusqu'à la fin de l'été. Il y a aussi des compétitions, différentes activités qui sont offertes par l'Association canadienne. Et
j'ai d'ailleurs vu sur votre site Facebook qu'il y avait des défis qui avaient été lancés là, sur votre site Facebook et de l'Association canadienne aussi.
Oui, absolument. Nous serions à la sortie du championnat canadien présentement. Absolument, oui. C'est en novembre, fin novembre. L'Association canadienne a fait un e-boccia, donc un genre de championnat canadien avec une ouverture, une cérémonie de clôture. Et les athlètes jouaient un contre l'autre dans des capsules isolées, dans Zoom. Chacun lançait sa... En tout cas, ils ont travaillé fort. C'est une nouvelle expérience, c'est de l'apprentissage. Mais quand même, j'étais à l'ouverture, j'irais une vingtaine d'athlètes à travers le Canada qui ont embarqué dans ce projet-là. Il y a eu d'autres projets aussi, Boccia and the Kitchen, qui vient de l'Angleterre. Ils nous ont permis de prendre leur concept dans l'année. Des gens à travers le Canada ont donné des trucs, des choses à faire. Et c'est ça. Mais les gens, on avait un comité technique là, le week-end dernier. Les gens commencent à trouver ça long, commencent à regarder comment on retourne sur le terrain. Certains clubs y sont. Je vous dirais que l'enjeu principal, c'est la prudence, mais c'est aussi la disponibilité des sites d'entraînement.
Hein. Okay.
Ça, c'est pas simple. Là. Les municipalités, les centres communautaires, les centres d'entraînement, on n'est pas dans la même fenêtre de disponibilité. Puis les athlètes ne peuvent pas être là aussi nombreux. Donc, ça fait un drôle de retour. Mais tout au moins, il y a quelques athlètes, dont, entre autres, principalement, les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux paralympiques, qui ont été remis à l'été prochain, qui, eux, ont fait un retour à l'entraînement.
Il y a d'ailleurs quelques athlètes du Québec là, qui font partie de l'équipe canadienne.
Ben là, est-ce que je vous dis vous ou tu, là, Dominique, depuis le temps qu'on se connaît? Mais,
tu peux me dire-tu, moi, j'ai aucun problème là avec ça. Là.
Hein? Permets-moi, Dominique, de dire que ce ne sont que des Québécois.
C'est parfait. Ça fait que vous faites du bon travail. Et aussi, vous allez lancer quelque chose d'assez spécial. On s'en est parlé un peu avant l'entrevue. Là. Est-ce qu'on peut m'en parler?
Oui. En fait, là, on s'est coordonné. On savait qu'on parlait ensemble aujourd'hui. Alors, présentement, il y a quelqu'un de l'équipe qui est en train de mettre en ligne sur le Facebook de l'Association québécoise de sport pour paralytiques cérébraux un vidéo. Et c'est le premier d'une longue série de Boccia Québec en direct. Alors, on s'est dit, comment on parle aux gens? On se trouve un nouveau moyen. Donc, on a commencé à filmer des capsules et pour dire aux gens, bon, il y aura des entrevues, il y aura de l'information, il y aura des jeux, des activités, comment on peut pratiquer telle stratégie. On pourrait être en direct aussi dans des événements. À fur et à mesure qu'il y aura des petits entraînements, des choses comme ça, on pourra faire du tournage. Donc, vous pouvez, dès maintenant, aller sur notre Facebook et voir Boccia Québec en direct, notre chaîne YouTube. C'est une nouveauté aussi. Et tous ces capsules-là vont s'accumuler sur notre chaîne YouTube. Donc, les gens pourront aller les voir à leur moment, au moment où ça leur va le mieux. Et on est bien fiers de ce projet-là. Fait que je vous invite à aller voir et puis passez-nous vos commentaires sur notre Facebook. Là. Dites-nous comment vous avez aimé ça. Puis dites-nous aussi, tu sais, je m'adresse à tout le monde, là. Avez-vous des sujets que vous voudriez qu'on traite? Parce que la première capsule, c'est vraiment autour de ça. Là. On arrive, on a deux animatrices, je vais vous les laisser découvrir. Mais pour nous, c'était important qu'il y ait une personne, une athlète de boccia. Donc, je vais vous dire leur nom. Marie-Lou Martineau de Québec, qui est une athlète paralympique, qui est encore une athlète très active, une jeune athlète de 20 ans, extraordinaire. Et Elisabeth Désiel, qui travaille avec l'équipe du Québec aussi et à plein temps chez nous. Qui sont les deux animatrices? On a une musique exclusive qui a été faite par un grand ami, un philanthrope mélomane, Richard Lupien. Alors, on est vraiment excités de ça.
Donc, c'est une bonne.
Vos commentaires. Ouais.
Donc, c'est une bonne opportunité de faire connaître le sport rapidement. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le boccia, peut-être en une trentaine de secondes, là, comment on peut. Tu peux nous décrire ça?
Ouais, ben en fait, les capsules vont durer entre 2 et 3 minutes. Là. On va aller un petit peu plus loin que 30 secondes. Et à chaque capsule qui va sortir, là, on espère en faire minimum une par mois. Mais ça se peut comme maintenant, on en ait plus. On ne va pas attendre. Ce n'est pas un rythme. Ce n'est pas une émission de radio. On veut mettre le plus d'informations possible, mais de façon dynamique. Alors, avec des entraîneurs, avec les animatrices, avec quelqu'un qui filme et un monteur extraordinaire qui est de la compagnie Microcom, qui sont des partenaires chez nous. Fait que c'est vraiment une façon de le mettre rapidement. C'est sûr que là, on va aller dans les souhaits de Noël, mais on va toujours parler de boccia puis le faire connaître. Pour le moment, c'est en français. C'est une équipe francophone, on est au Québec, mais on pense que ces capsules-là vont risquer de se promener beaucoup à travers le monde, puis de rayonner aussi sur qui on est au Québec, en boccia, puis ce qu'est la discipline.
Bien, ça semble super intéressant, José. Je vois que vous avez la pandémie ne vous a pas arrêté. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Je vous souhaite bonne chance à la nouvelle chaîne YouTube. On va aller voir ça. Et pour nous, ben, on s'en va à la pause et on sera de retour après le spectacle de la mi-temps.
Ladies and gentlemen, welcome to the halftime show.
Together now, na na.
Alors, vous venez d'entendre la chanson « Life is Life » du groupe Opus. Cette chanson a servi d'entraînement à Diego Maradona lors de la demi-finale de la Coupe de la UEFA en 1989. Pendant que la chanson jouait, il a jonglé avec le ballon et tapait des mains au son de la musique. Vous pouvez voir, c'est une petite vidéo sur YouTube, c'est très intéressant. Donc, un petit hommage à Diego Maradona. Alors, ma prochaine invitée est Marie-Claude Molnar lors du Mérite cyclisme québécois qui s'est déroulé le mois dernier. La Fédération des sports cyclistes lui a remis le prix du para-athlète de l'année. Elle a fini 3 fois dans le top 10 au championnat du monde 2020 et elle est au bout du fil pour nous en parler. Bonjour Marie-Claude, ça va bien?
Bonjour Dominique, ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien, merci. Alors, tu es une des rares para-athlètes d'avoir participé à une compétition d'envergure en 2020. Tu es chanceuse?
oui, c'est une grande chance, effectivement.
Donc, les championnats du monde sur piste se sont déroulés à Milton, je pense au mois de février ou au mois de mars, en Ontario.
Fin janvier,
merci de me corriger. Donc, avec le recul, comment c'était cette compétition-là?
Ah, écoute, cette compétition-là, premièrement, ce qui était absolument magistral, si je peux dire, de cette compétition-là, c'est le fait d'avoir été à la maison. Donc, de pouvoir compétitionner devant nos familles, nos amis, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis, au niveau de la préparation, c'est certain que le fait d'avoir été à la maison, ça donnait un petit plus là, pour vouloir encore mieux faire.
Et tes résultats, est-ce que 3 top 10, qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. C'est satisfaisant pour toi?
Oui, je suis satisfaite. Je suis satisfaite des résultats. Je dirais par contre qu'au niveau de la poursuite individuelle de 3 km, c'est certain que j'aurais aimé mieux un meilleur résultat qu'une 6e place. Mais je suis quand même fière de la performance qui a été livrée parce que pour la première fois de ma carrière, là, j'ai réussi à avoir un chrono en deçà des 4 minutes. Donc ça, c'est quelque chose là, qui me rendait fière. Et puis, au niveau des autres performances pour les autres épreuves, ça s'est aussi très bien déroulé. La poursuite, ça a bien été. Le 500 mètres, ça a bien été aussi. Le 200 mètres, c'était une nouvelle épreuve. C'était quelque chose de très excitant. Donc, on était toutes fébriles à l'idée de cette compétition-là. Et puis, le scratch, ça, c'est une compétition en peloton. Donc, on est une vingtaine de personnes sur la piste en même temps. Ça amène un peu plus de nervosité, mais c'est une course qui est très excitante à regarder.
Sur piste, donc c'est à l'intérieur, sur une piste de bois. Tu fais aussi la course sur route. Lequel des deux tu préfères?
Écoute, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Puis je dirais que c'est vraiment... J'aime autant rouler à l'extérieur sur la route qu'à l'intérieur sur la piste. Les deux épreuves que je vais vraiment préférer, c'est la poursuite individuelle sur la piste et le contre-la-montre sur route à l'extérieur. Donc, c'est 50-50.
OK. Pourquoi, c'est quoi la différence entre les deux pour toi en termes de préparation?
Mm-hmm. Bien, je dirais que en termes de préparation, écoute, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails techniques, là, mais au niveau des filières énergétiques, donc ce qu'on va aller chercher au niveau musculaire, au niveau des deux courses, c'est quand même assez semblable. La seule différence, bien sûr, là, c'est que le contre-la-montre sur route, c'est une course là, qui va durer au minimum là, 25 minutes, une demi-heure, tandis que la poursuite individuelle, ça dure 4 minutes. Donc, au niveau du contre-la-montre sur route, c'est certain que ça va demander de l'athlète d'être capable de faire des efforts à un grand wattage pour une bonne durée de temps. Donc, à ce niveau-là, pour les deux courses, là, c'est quand même assez semblable là, en termes de préparation.
Je veux revenir au championnat du monde de 2020, les choses peuvent changer assez rapidement, spécialement dans le sport para, parce que souvent des nouveaux athlètes qui peuvent arriver sur la scène qu'on n'avait jamais vu. C'est arrivé, il y a une athlète canadienne, Kate O'Brien, donc ta coéquipière, qui est arrivée à sa première compétition, je crois, internationale, et elle a à peu près tout dominé. ou à peu près, là. J'ai vu un record du monde, là, puis je pense qu'elle était genre 3-4 secondes en avant de tout le monde.
Si c'est pas plus.
Mais il faut dire que c'était une ancienne athlète olympique et elle a eu un accident de vélo et est maintenant classifiable. Mais comment, pour toi, comme athlète, tu réagis face à ça?
Ben, je veux dire, premièrement, écoute, c'est absolument phénoménal. Premièrement, le fait qu'elle puisse faire qu'elle soit encore là et qu'elle puisse faire du vélo. Et puis maintenant, là, qu'elle puisse se joindre à nous en paracyclisme. C'est certain que en tant que coéquipière, je suis vraiment fière que Kate soit maintenant sur notre équipe. Elle est vraiment un bel ajout, non seulement pour sa force dans les épreuves de sprint sur la piste, mais en tant que personne aussi, là, elle a une personnalité qui se greffe bien au groupe qu'on est déjà. Ça pourrait être facile de penser que oui, bon, là, maintenant au Canada, on est trois athlètes de la même catégorie, mais je veux dire, Ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut d'abord penser que oui, on est trois athlètes de la même catégorie au Canada, mais on a toutes des forces qui sont différentes. Donc, à ce niveau-là, on va bien se compléter en tant qu'équipe là, pour la catégorie C4. Donc, c'est quelque chose que je suis fière de faire partie de ce groupe-là. Et puis on va juste avoir des belles choses à réaliser.
Tu as parlé de catégorie C4, sans rentrer dans les gros détails, là, il reste pas beaucoup de temps, mais ça veut dire quoi C4?
Bien, C4, c'est que la catégorie C, c'est pour cycle, donc pour les vélos standards à deux roues, et 4, c'est parce que ça va de C1 jusqu'à C5. L'athlète C1, qui est un athlète qui est un peu plus affecté par son handicap comparativement à un athlète C5.
OK. Donc, merci beaucoup. J'avais plein d'autres questions. Sûrement, on parlait de la préparation en vue des Jeux paralympiques qui va se dérouler en 2021, au mois de septembre, mais il reste encore plein de mois pour se passer. Je pense qu'on va se rappeler en janvier, puis tu vas pouvoir nous en parler là, de la joie de rouler sur un rouleau pour se préparer pour les Jeux paralympiques. D'ici ce temps-là, je te souhaite un bon temps des fêtes.
Ben, merci beaucoup, Dominique, puis à toi aussi.
Merci, au revoir.
De rien, bye-bye.
Alors, je suis en compagnie de Camille Chai. Bonjour Camille, ça va bien?
Ça va bien et toi, Dominique?
Oui, je lisais sur les médias sociaux qu'il y a 4 ans, tu partais pour ta première compétition internationale.
Oui, monsieur.
C'est vrai?
Oui, complètement.
C'était à quel endroit?
Ma première compétition a eu lieu en Italie.
C'est grand l'Italie ou en Italie?
Oui, c'est très grand. je suis allée à Pise et à Florence.
OK.
En fait, j'ai eu deux compétitions qui ont eu lieu en Italie, mais la première était à Pise. Et je t'avoue que oui, t'as vu ça sur les réseaux sociaux parce que je suis un peu nostalgique de ce temps-là, je te dirais.
Et c'est d'ailleurs le sujet de ta chronique.
Ben oui, ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce que moi, j'ai été escrimeuse paralympique pendant à peu près 3 ans, mais ça fait 2 ans déjà que j'ai arrêté.
Et moi, je te dirais que moi aussi, j'ai fait de la course en fauteuil roulant et ça fait près de 20 ans que j'ai pris ma retraite. Je suis toujours nostalgique. Depuis ce temps-là, je me pose encore la question, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand?
C'est beau, ça.
Et on a d'ailleurs plein d'anecdotes à raconter en termes de voyage.
Ah oui, complètement, complètement.
C'est quoi ta plus drôle anecdote? Ça serait quoi?
Ben, ma plus drôle et ma plus intense aussi en même temps, ça a été, je te dirais, il y a quoi, il y a à peu près 3 ans, il y a eu une énorme tempête de neige à Montréal et c'était le jour de mon départ pour une compétition en Italie. Et je t'avoue que il s'est passé tellement de choses, mais la tempête de neige a fait en sorte que mon vol a été complètement annulé. Hein, on commence par ça. Donc, ça a été pour moi une expérience incroyable parce que je n'y attendais pas du tout, plus ou moins vu la neige qui tombait, mais de tout ce qui a découlé par la suite, parce que un vol qui est annulé, ça a fait en sorte que l'aéroport était complètement fermé. Donc, tout le monde qui était là, qui devait prendre leur vol, on a tous dû dormir dans l'aéroport, mais l'aéroport, c'est pas un hôtel. Hein.
C'est pas ce qui est le plus confortable, les bancs des salles d'attente, en tout cas.
Tu vois, tu parles des bancs de salles d'attente, mais je peux te dire qu'ils ont été pris très rapidement et il n'y en avait pas beaucoup vu le nombre de personnes. Donc, on était un peu comme dans une autre, une ambiance complètement un peu d'apocalypse où tout le monde se cherchait un coin ou un endroit qui pouvait être un peu confortable. Donc, moi, je t'avoue, j'ai essayé les tapis en fait roulants sur lesquels ils envoient nos valises pour aller dans les soutes quand on enregistre nos bagages. Donc j'ai testé ça, mais non, je vous dirais que c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable malgré tout.
Et moi j'aurais eu peur que quelqu'un pisse sur le piton puis que tu te ramasses dans le soute de bagages assez rapidement.
Oui, peut-être, imagine, ça aurait été encore autre chose. Mais je me suis retrouvée à dormir sur des boîtes en plastique dans lesquelles on met les bagages. Donc je me suis mis à peu près 6 boîtes de plastique pour me faire un espèce de lit de fortune. Et dessus, j'avais mon matériel d'escrime avec moi. Donc on a une grande jupe. Une jupette métallisée pour l'escrime paralympique. Et donc, je me suis mis ça un peu comme un drap. Donc, bref, je te dis, c'était complètement incroyable. Et à cause de ça, j'ai manqué ma compétition.
Ouh! Puis pourtant, les compétitions, on fait ça pour des points. Est-ce que ça t'a pénalisé?
Complètement, Dominique. C'est justement le point. C'est que j'ai pas pu accumuler aucun point. Puis il faut savoir que on met beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il faut payer notre vol, il faut payer les frais de compétition, l'hôtel, la nourriture. Donc investir autant pour finalement se rendre sur place, mais ne pouvoir accumuler aucun point pour mon classement mondial, ça fait mal, je te l'avoue.
Et c'était seulement cette compétition-là que tu t'avais ou il y en avait toujours deux collées, une en arrière de l'autre?
Oui, en fait, j'ai fait 2 armes. Donc j'ai fait l'épée et le sabre. Donc, j'ai manqué ma compétition d'épée qui était ma première arme. Donc, c'est sur cette arme-là que je misais pour aller chercher le plus de points parce que j'avais moins d'expérience avec le sabre. Donc, j'ai quand même pu faire ma compétition de sabre, mais ça n'a pas porté fruit. Par contre, tout le monde avait été au courant que mon vol avait été annulé à cause d'une tempête de neige. Donc, ils m'ont appelé à la toute fin de la compétition pour me remettre une médaille, malgré tout, de bon esprit sportif, parce que j'avais quand même gardé le sourire. Mais la Fédération de scrim était tellement au courant de tout. Quelqu'un était allé m'acheter des vêtements, parce qu'en fait, mes valises, évidemment, quand on a un vol qui est annulé, souvent les valises ne suivent pas. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, ils m'ont acheté des vêtements pour que je puisse tenir 1 ou 2 journées de plus. Donc, toute une histoire.
Et t'en aurais-tu d'autres, des anecdotes intéressantes?
Je te dirais que toujours la même. En fait, c'est juste la suite de l'histoire. À la fin de la compétition, au moment où on devait retourner prendre notre avion pour revenir à Montréal, on apprend que les compagnies aériennes, donc en Italie, faisaient une grève à ce moment-là.
OK, intéressant.
Donc, j'ai envie de dire, à ce moment-là, les bras m'ont tombé, alors que je veux dire, j'en ai juste
quoique, c'est pour ça qu'il t'en reste plus un cas?
Oui, on peut dire ça, Dominique, on peut dire ça. Parce que...
En personne handicapée, on peut faire des jokes comme ça. Hein?
Oui, l'humour, c'est important, mais oui, parce que je suis née sans bras ni jambe gauche, donc voilà, les bras me sont tombés, il m'en reste qu'un. mais tu vois, ça a été une magnifique expérience parce qu'on a dû se débrouiller avec mes coéquipiers, on a pris un train, on est passé par l'Allemagne, un train de nuit. Moi, c'est la première fois que je prenais le train, donc on dirait que je vivais un film parce que... Puis une chose aussi que je n'ai pas mentionnée, mais... Le matériel d'escrime qu'on doit traîner avec nous, c'est les sacs remplis avec tout notre équipement, donc nos armes, nos vêtements, les masques, les fauteuils roulants, parce qu'on est en fauteuil roulant, qu'on soit avec, en fait, comme moi, si on porte des prothèses ou quelqu'un qui a une malformation mais qui ne porte pas nécessairement de prothèse, doit toujours se battre dans un fauteuil roulant. Donc, on a tous notre fauteuil qui est personnalisé. Donc, moi qui ai juste une main pour traîner tout ça, heureusement que j'étais avec mes coéquipiers, mais quand même, c'était vraiment toute une aventure.
C'est une bonne façon de créer des liens et de se faire des amis.
Complètement.
Aussi, je vois que les aéroports sont une manne d'histoire pour les athlètes. On pourrait en raconter pendant des jours et des jours. Moi, c'est déjà arrivé dans des compétitions où ma chaise était partie et moi, j'étais resté à l'aéroport. Et tout ce qu'on m'a répondu, je devrais prendre le prochain vol, c'est pas grave. Mais ça marche pas parce que les fauteuils qu'ils nous prêtent dans les aéroports sont pas toujours les plus confortables.
Non, c'est pas adapté.
En très bon québécois, je leur ai laissé savoir que ça faisait pas mon affaire et on m'a transporté dans l'avion sur la piste d'atterrissage. Ça, c'était ma petite anecdote.
Wow, pas mal.
Merci beaucoup, Camille, pour cette belle chronique. On se reparle dans 2 semaines. Et d'ici ce temps-là, je te souhaite une bonne semaine.
Merci. À toi aussi, Dominique.
Au revoir. Alors, pour la dernière entrevue de mon émission, je suis en compagnie de Lynn Tremblay, qui est une spécialiste des armes dans les sports paralympiques. Elle a fait du tir à l'arc et maintenant se prépare pour les Jeux de Tokyo au tir à la carabine. Et le mois dernier, elle a lancé une autobiographie. Elle est au bout du fil. Bonjour, Madame Tremblay. Comment allez-vous?
Bonjour Dominique, ça va très bien, je te remercie beaucoup.
Et pourquoi avoir lancé une autobiographie?
Bien, en fait, c'est que la mission que je me suis donnée pour cette autobiographie, c'est en premier lieu parce que rendu à mon âge, je vais avoir 58 ans dans une semaine et je trouvais que c'était le moment pour moi de transmettre aux jeunes, parce que je trouve ça très, très important. Et aussi, je trouvais ça important de rendre hommage à tous les gens qui m'ont côtoyé durant mon parcours, parce que avant tout, je considère que j'ai vécu une aventure humaine exceptionnelle durant toute ma vie. Alors, c'est les deux missions que je me suis données en écrivant ce livre.
Sur votre site web, quand on va sur la page pour parler de l'autobiographie, il y a la phrase « La jeune Lynn Tremblay portait en son cœur 3 souhaits. Piloter un avion, faire le tour du monde et participer aux Jeux olympiques. » De ces 3 souhaits-là, est-ce qu'ils ont tous été réalisés? Ou on devra lire le livre pour l'apprendre?
C'est certain qu'en lisant le livre, vous allez découvrir mon parcours. Mais j'ai eu la chance de réaliser ces 3 souhaits. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, je pense que le rêve, c'est une base très importante de l'enfance. Et moi, ben, mon père, c'est un grand, grand rêveur. Ma mère a toujours cru en mes rêves également. Et puis, mon père, c'était un homme qui avait comme passion l'aviation. Alors, suivant sa trace, j'ai réussi à devenir pilote d'avion. Je dis tout le temps que c'est un petit peu ma première vie. Et ensuite, oui, je suis devenue olympienne, mais c'est la passion. Moi, j'avais la passion au départ de voyager, de faire le tour du monde. J'aurais pu choisir plusieurs véhicules pour le faire. J'aurais pu choisir la musique, j'aurais pu choisir la vie artistique, mais ce qui m'a semblé naturel, c'était l'aviation et le sport.
Vous parlez de Jeux olympiques. Vous avez participé à au moins un jeu paralympique. J'ai un blanc de mémoire. Là, où vous étiez au moins à Londres.
Donc, c'est pas la même chose, olympique, paralympique. À quel moment l'olympique a été remplacé par paralympique?
Bon, ben écoute, mais moi, pour juste préciser, j'ai participé aux Jeux paralympiques de Pékin.
Ah,
et
2008,
les Jeux paralympiques, oui. Ouais, et puis les Jeux de Londres.
Ouais.
Et puis, dans l'histoire, au départ, les Jeux paralympiques, c'était pour les gens qui étaient paraplégiques. Le premier sport paralympique là, de l'histoire, c'est le tir à l'arc.
C'est ça, oui.
Oui, exactement. Et puis, suite à ça, étant donné que ça a pris de l'ampleur et puis qu'il y avait plus que les paraplégiques qui participaient aux Jeux, à ce moment-là, on a utilisé le préfixe « para » parce que selon le... Je crois que ça vient... au départ, le mot « para », ça veut dire « à côté de » ou « en parallèle de ».
C'est ça, oui.
Alors, c'est pour ça qu'on a conservé le préfixe « para » qui est suivi du mot olympique pour dire qu'on on travaille, dans le fond, on est en parallèle des Jeux olympiques. Mais je dois te dire, Dominique, que les athlètes qui sont des para-athlètes, on est vraiment, ce sont des athlètes à part entière. Là. C'est très, très inspirant.
J'en doute pas une seconde. Comment vous êtes devenu pu participer aux Jeux paralympiques?
Ben écoute, moi, je suis pas paraplégique de naissance. J'ai été diagnostiquée d'une maladie neurologique à l'âge de 33 ans. Et puis, suite des effets secondaires de cette maladie-là, je suis maintenant en fauteuil roulant. Et puis, moi, j'étais une très grande sportive avant. J'ai fait 5 équipes nationales avant d'être une paralympienne. Alors, j'avais déjà ça dans ma fibre. Et j'ai poursuivi ma route tout simplement là. J'ai été aux Jeux paralympiques en premier en tir à l'arc et puis maintenant ben je suis en tir à la carabine.
Pourquoi avoir changé du tir à l'arc au tir à la carabine?
Pour deux raisons. La première, c'est que bon, on se le cachera pas, hein, dans certains sports, encore aujourd'hui, il y a de l'intimidation. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vécu des difficultés assez importantes avec ma fédération de l'époque. Ça, c'est la première raison. Puis, à un moment donné, ben, j'ai lâché prise. Comme on dit, je me suis choisie. Et aussi, j'avais découvert le tir à la carabine, pour lequel j'ai développé une passion, puis qui a dans laquelle il y a une camaraderie extraordinaire. Et c'est ce qui me rejoint tout à fait. Parce que pour moi, avant tout, c'est l'aventure humaine qui compte. Et la deuxième raison, c'est que, étant donné que ma condition physique, moi, j'ai une maladie neurologique évolutive, et puis ma condition physique avait évolué. Et puis là, ben, je vivais de plus en plus de difficultés à étirer la corde de l'arc. Alors, c'est pour ça que maintenant, je suis en tir à la carabine.
Et les aptitudes physiques pour pratiquer le sport sont similaires en termes de talent qu'on a besoin là, pour pratiquer
oui.
le sport, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, absolument. Parce que, évidemment, même si ma condition physique a évolué, il en demeure pas moins que pour faire du tir à la carabine, pour performer à un très haut niveau, là, moi, je suis dans le top 10 mondial, bon, ben, ça prend une condition physique qui est exceptionnelle. Donc, il faut travailler sur différents volets. La préparation physique, la préparation mentale et aussi la préparation spécifique qui est le tir comme tel. Et à ce moment-là, ben, c'est vraiment la concentration là, qui est à son paroxysme. Et aussi, nous, le défi, c'est d'être dans une position statique, de ne pas bouger. Et puis, ben, pour ne pas bouger, ben, il faut être en très bonne condition physique parce que tenir une position pendant des heures, c'est difficile.
Madame Tremblay, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a pour notre émission. Mon nom est Dominique Tremblay et je vous souhaite un bon 2 semaines. Au revoir.